Y'a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Bonjour à tous, c'est l'émission mensuelle Urgence.
Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts.
L'émission qui a pour vocation d'informer, de mobiliser, d'alerter, de débattre d'un sujet de société.
Y'a des hauts, des hauts. Si bas, où y a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Comme chaque mois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, nous allons traiter d'un sujet de société. Je pense que c'est le rôle de la Ligue des droits de l'homme, non pas d'apporter des solutions, mais de faire réfléchir. Réfléchissons ensemble à des sujets de société qui nous semblent fondamentaux.
Urgence, émission animée et proposée par la section de la Ligue des droits de l'homme, Villefranche et les Casvilles.
Bonjour, c'est Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Urgence pour les droits, urgence pour les libertés. Je vous précise que vous pouvez également écouter cette émission sur Radio Larzac. Le mois dernier, nous avons diffusé la première partie d'une conférence donnée par Jean-Louis Mataran en novembre 2015 sur le thème « La République et le sacré ». Jean-Louis Mataran est un historien, spécialiste de la Révolution française et de l'histoire des idées politiques. Il est également ancien directeur des études et des recherches à la Fondation Charles de Gaulle. Nous allons donc écouter la deuxième partie de cette conférence sur le thème « La République et le sacré ». Musique, et je vous laisse en compagnie de Jean-Louis Mataran.
Abatina, oh, who you have there breaking down the door? Kina was not deceiver, few were République avant tout. Vous allez voir dans quel sens je le dis, je le mets en place. Alors, je fais trois points rapides. D'abord, tout ça, c'est pas une histoire calme. Et donc, tout ceci s'est fait dans l'effort, dans la volonté, dans la violence, souvent. Et puis, du coup, dans le sacrifice. Sacrifice social, sacrifice humain. On peut penser à la résistance, pas besoin d'aller très très loin. Et donc, il y a quelque chose, je pense, dont il faut rappeler, c'est que nous sommes des héritiers de gens qui se sont décarcassés. Et qui ont perdu du temps, qui ont été réprimés, qui ont perdu leur vie, pour que nous ayons quelque chose qui soit amélioré. Et donc, le « nous », il n'existe qu'en conséquence de cette amélioration collective dont nous sommes des dépositaires. Encore une fois, le dépôt n'est pas intangible, on peut le perfectionner, c'est une notion de progrès, à condition qu'il soit juste et pas utile, uniquement employé pour signaler des régressions sociales ou économiques, mais on peut le transformer, mais à condition qu'on sache d'où nous venons. Et ce, alors, tout ceci, quand on doit imposer des points d'ancrage, c'est-à-dire des références nouvelles de sacralité, c'est le résultat de luttes. De luttes qui ont pris des décennies, voire des siècles. Et pour nous, pour parler uniquement de la République, ça a pris tout le 19e, une bonne part du 20e, et c'est d'actualité au 21e, dans les circonstances que nous vivons. Alors, imposer le point d'ancrage dans ce qu'on indiquait, notamment dès 1789, mais a fortiori après avec la République, ça s'est fait, je dirais, non pas contre l'Église, mais contre le clergé. C'est-à-dire contre les médiateurs qui étaient autorisés jusque-là, institués dans le cadre séculaire de la monarchie absolue, et qui avaient comme autorité de dire au peuple tout ordre confondu, vous devez faire ci ou ça, ou ne pas faire ça, parce que Dieu le veut. Et nous interprétons ce qu'est la volonté de Dieu par les textes, etc. Bon. Alors, les protestants avaient déjà mis un peu de bazar là-dedans, mais le clergé était resté puissant, et comme la monarchie était liée à lui, c'est bien le clergé catholique qui a été le point d'achoppement, de la transformation du point d'ancrage. N'imaginons pas non plus que nous sommes nés, je le disais tout à l'heure, dans cette lutte à partir de 1789. Quand on dit la monarchie absolue de droit divin, la monarchie est absolue, y compris vis-à-vis du clergé. Et donc, on a quelque chose qui est un peu compliqué à penser, c'est que la foi catholique, telle qu'elle est instituée dans l'Église, dite par le pape, et puis par les textes saints, la patristique, et puis le clergé, en même temps, elle s'applique à des réalités historiques distinctes. Le royaume de France, ce n'est pas le royaume d'Espagne. Ce n'est pas du tout la même autorité. Les royaumes ne fonctionnent pas de la même façon. Et donc, en France, il y a une particularité éminente dont nous sommes les héritiers, c'est que les rois de France, très tôt, dès le XIVe siècle, ont mis en place qu'ils avaient une stratégie d'autonomie par rapport à Rome et au pape. Ce qu'on appelle la tradition gallicane et régalienne. Et pour imposer, notamment, pour donner un exemple, le pape ne désignait pas les évêques. Il les proposait au roi. Il disait, celui-là pourrait être évêque de, je ne sais pas quoi, de Villefranche. Et c'était le roi qui décidait, oui, d'accord. Ah non, pas celui-là, pas question, c'est celui-là. Parce qu'il voulait être maître chez soi. Formule d'Henri IV. Et donc Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, et même après Louis XVIII, et même Charles X, qui était pourtant un réactionnaire affiéfé, n'ont pas interrompu cette volonté régalienne. La volonté du roi passe avant celle du pape, et auparavant elle passait avant celle de l'empereur, qui avait des prétentions sur le royaume. Donc la Révolution, lorsqu'elle éclate, elle s'introduit là-dedans, et notamment, évidemment, dans l'esprit de tous ces hommes de loi, que sont les avocats, les juristes, qui sont nombreux, on vient de le rappeler parmi les constituants, qui connaissent bien les lois de la monarchie, et comment la monarchie a avancé. Ce sont des experts du pouvoir d'État, ceux qui sont là, les avocats, les juristes. Alors, ils ont... quelque chose qui s'est accéléré sur le principe des Lumières, c'est que lorsque vous voulez affirmer l'égalité entre les hommes, qu'elle ne soit plus uniquement une égalité comme ça de référence, oui, ben vous serez à égalité devant Dieu, une fois que la mort sera faite, quoi. Dieu ne choisit. Le riche, il est difficile aux riches de rentrer au paradis, etc. Bon. Mais ça, c'était dans l'au-delà. Donc, en attendant, sur ici-bas, on pouvait rester misérable et puis et ne pas contester l'ordre social ou être puissamment réprimé. Bon. Quand on met en œuvre la réalité, quand on veut mettre en œuvre l'égalité, eh bien, il a fallu supprimer les privilèges. Et donc, on a aboli les ordres. C'est tout ce qui s'est conduit entre le 4 août et le 11 août 1789. Ça mettait tous les Français à égalité devant la loi, qui allait être sanctionnée quelques jours après dans la Déclaration des droits de l'homme. Alors, l'Église, qui avait un rôle fonctionnel dans la monarchie absolue du droit divin, c'est le premier ordre. Un, l'Église, enfin les membres du clergé, 132 000 individus, hommes et femmes, pas beaucoup. La noblesse, 800 000 à peu près, je crois que c'est cet ordre-là, un peu moins d'un million. Et puis le reste, le tiers-état, 27 millions, en tout on était 28 millions. Alors quand vous supprimez les privilèges, vous supprimez tous les revenus qui sont associés à la terre, etc. Et donc on s'est retrouvé avec un clergé que personne ne remettait en question. Parce qu'on ne remettait pas en question la religion. On remettait en question l'ordre politique, avec des points de sacralité qui allaient faire la part belle à la demande libérale et individuelle telle que les Lumières l'avaient diffusée. Alors on se retrouve avec des moines, des curés, etc., et qui n'ont plus de revenus. Donc les constituants, comme ils sont dans la raison, c'est le siècle de la raison, de la rationalité, ils disent on va établir un salaire. Et on va voter quelque chose qui permette aux prêtres dans les paroisses, aux évêques dans les évêchés, aux archevêques, de continuer à vivre. Et alors on établit une échelle salariale que la nation va payer. Parce qu'elle ne remet pas en question l'existence ni de l'Église ni du clergé, qui est un élément de fonctionnement. Alors tout ceci, évidemment, ce n'est pas uniquement pour salariés. Alors on va demander aux prêtres, qui désormais vont être en quelque sorte des fonctionnaires de l'État, de prêter serment à la Constitution, à ce qu'on va appeler la Constitution civile du clergé. Le clergé, désormais, est défini comme ci, comme ça, il a telle fonction, il est payé, en plus avec les départements, on avait mis un évêché par département, donc tout ça c'était la raison la plus pure qui se mettait en route. Comme pour tout fonctionnaire, on va demander aux membres du clergé de prêter serment, d'être fidèle à quoi ? À la loi, au roi, parce que le roi est toujours là, et à la constitution du clergé qui les met en place. Le roi y était favorable, Louis XVI, parce qu'il ne voulait pas de fracture à ce moment-là. Les constituants proposaient ça, ils le voulaient. Là où ça commençait à tiquer sérieux, c'est à Rome, évidemment. Parce qu'évidemment, on changeait radicalement d'organisation. Et le pape s'est élevé, c'était Pie VI à l'époque, s'est élevé contre cette situation. Alors, ça a été atténué, etc. La constitution civile du clergé a existé, et on a demandé aux prêtres de prêter serment. Un bon tiers a refusé. On a dit, ce sont les prêtres réfractaires. Ils refusent. Et puis, au contraire, il y a eu les prêtres jureurs, à peu près 62%, un petit peu moins. Et donc là, il y a eu un schisme à l'intérieur du clergé. Les uns qui acceptaient la nouvelle organisation, même si le roi était plutôt favorable, et les autres qui la refusaient. Eh bien, ce refus, en quelque sorte, de faire allégeance à la Révolution, qui n'est pas du tout la République, là, hein. C'est pas la République, on est en 89-90. Eh bien, ça a constitué le point de rupture entre une partie du clergé et tous ceux qui étaient attachés à la Révolution, qui ne se définissaient pas encore comme républicains. Donc on peut affirmer que ces prêtres qui s'élèvent contre la Révolution, eh bien, ils participent de la contre-révolution, ça c'est une certitude, ils vont le montrer ultérieurement dans l'insurrection vendéenne, etc., mais que ce refus, il est antérieur à l'anti-républicanisme. Donc il y a quelque chose qui se rompt avant que la République soit même inventée ou même pensée, qui est intérieur au mouvement révolutionnaire, et qui est ce refus, vous voyez, qui est inhérent au clergé, qui juste là avait un rôle essentiel de médiation entre le sacré antérieur qui était contesté et la société qui était transformée. Alors Napoléon, qui n'est encore que premier consul en 1801, tente d'apaiser la chose. Parce que comme il a lutté contre les insurrections jacobines, de gauche on dirait à l'époque, comme il a lutté contre les insurrections royalistes, de droite comme il est aujourd'hui, il veut également apaiser, c'est comme ça qu'il le présente, et donc il met en place ce qu'on appelait la loi concordataire, le concordat, dont vous savez que son application est toujours d'actualité en Alsace-Moselle. C'était en 1801, il était premier consul à ce moment-là. C'était pour organiser qu'il y ait la paix de cet ordre-là, puisqu'il avait apaisé le dilemme politique. La Troisième République, qui est, elle va revenir sur ces éléments-là, notamment en 1884. Il y a une révision constitutionnelle. Vous savez, la Troisième République, il n'y a pas un texte, il y a plusieurs textes, on dit les lois constitutionnelles. Il y en a eu plusieurs qui ont été adoptées dans une espèce de confusion entretenue au départ dans les années 70, parce qu'on espérait, une bonne part des députés espéraient que la monarchie soit rétablie par la République. Donc c'est arrivé par... Donc il y avait trois lois principales. Et en tout cas, en 84, les républicains sont installés. Il y a une révision constitutionnelle votée par les députés et par le Sénat. Alors, un, suppression des prières à l'ouverture des sessions parlementaires. 1884. Jusque-là, il y avait prière du clergé catholique, prière du clergé protestant, prière des rabbins, avant que les députés se mettent à travailler. On est en 1884. On a déjà les lois Ferry et compagnie, avec des radicaux. Deuxième élément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État n'a plus de religion quand il supprime ça. Il se distingue de la religion. Il n'y a plus de religion. Il y a ensuite, les cimetières sont municipalisés, dans le même mouvement, le même texte. Et ce qui est assez étonnant, je trouve que ça m'amuse toujours de dire ça, en 1884, dans le même corpus de textes qui sont adoptés, là, on adopte la loi sur le divorce entre individus, entre hommes et femmes, à l'époque. Ça avait déjà été adopté en 1793, mais mis après sous le boisseau. Alors, on peut dire au fond que la loi sur le divorce des individus a existé avant la séparation de l'Église et de l'État. Mais au fond que les deux se sont engagés un peu en même temps. Et vous voyez comment chacun a retrouvé de l'autonomie. Et l'État et les époux entre eux. C'était principalement à destination des femmes. Et en tout cas, c'est dans le même mouvement de 1884 qu'on rajoute à une et indivisible l'affirmation que la forme républicaine est intangible. On ne peut pas y toucher. Donc c'est encore plus fort. C'est éternel en quelque sorte, intangible. Alors l'intensité de la lutte entre le clergé, ça s'est bien intensifié sous la Troisième République. Et évidemment, la Ligue des droits de l'homme est directement intéressée à cette lutte, puisque c'est dans ce contexte-là que sa naissance s'est produite. La remise en cause de la République, les remises en cause ont été nombreuses. La République n'est pas allée de soi, pour plein de mondes différents. Je rappelle, et de ses valeurs donc, quand je dis la République, c'est ses valeurs, son corpus sacré qu'elle met, la déclaration des droits de l'homme, etc. Alors d'abord, il y a eu la crise anarchiste, qui a duré presque 20 ans. Les anarchistes étaient nombreux en France. Ils avaient des théoriciens absolument géniaux, comme Proudhon. Et puis, ils ont été nombreux et très organisés. Ils étaient tellement organisés qu'ils ont quand même exécuté un président de la République. Ils ont quand même mis une bombe qui a fait des dégâts dans la Chambre des députés, en pleine session. Et ils mettaient des marmites un peu partout, dans les commissariats, notamment des grandes villes, et en quelques casernes. Et alors ensuite, on les a pourchassés, évidemment. Donc ils remettaient en question l'ordre bourgeois, qui passait par cette forme bourgeoise qui était la République, et ses valeurs qu'ils niaient. Bon, alors on les a pourchassés, on les a arrêtés, on les a guillotinés. Bon, puis après, tout ceci... Il y a eu une opposition qui s'est dégagée de façon virulente à propos de l'affaire Dreyfus, ou à l'occasion, ou qui a pris prétexte de l'affaire Dreyfus, qui a été accompagnée par une partie du clergé, et qui a constitué bientôt une opposition nationaliste virulente qui exprimait que la République, telle qu'elle était conduite et telle qu'elle prenait des décisions, ne représentait pas vraiment ni les idéaux de la France, ni de la Révolution. Ça a donné naissance à ce mouvement d'abord nationaliste et puis qui va devenir monarchiste en quelques années, qu'on appelait l'Action française, Charles Maurras, et qui a été un mouvement intrépide avec les camelots du roi, qui ont été au cœur de la tentative de déstabilisation et de coup d'État du 6 février 1934. Et qui a ensuite été Charles Maurras, qui a vécu longtemps, il est mort, je crois, en 52 ou 54, n'était pas. Il a soutenu Pétain, le régime fasciste de Pétain. C'était un nationaliste, hein, donc il était anti-allemand, mais il était surtout anti-républicain, absolument. Et c'est vraiment l'affaire Dreyfus qui a fait le clivage entre, essentiel, entre d'une part le clergé et puis les républicains qui voulaient être dans la contrôle et en quelque sorte dans l'organisation de la République. C'est ça, ce qui a l'affaire Dreyfus a suscité véritablement, même s'il y a eu des éléments antérieurs, c'est pour ça que je parlais de la Révolution, l'anticléricalisme d'une partie des républicains, qui continue de subsister encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est le cas dans l'Aveyron, mais je vois que dans la Tarn-et-Garonne, il y a ce courant-là qui est tout à fait... les républicains se sont déterminés en quelque sorte contre le clergé, parce que la plupart des républicains, mais pas tous, ont été des Dreyfusards. Et la plupart des membres du clergé ont été des anti-Dreyfusards, mais pas tous, voilà non plus, c'est assez compliqué. Et par contre, les républicains, voyant que quand même il y avait cette volonté de nuire à Dreyfus et de nuire à travers lui aux idéaux de la République, à l'égalité, avec tout l'antisémitisme qui revenait, ils ont développé contre le clergé une argumentation qui était tout à fait justifiée et qui était de dire il faut lutter contre le clergé, catholique principalement, hein, le protestant c'est encore autre chose, parce qu'il y a une trop grande emprise du clergé encore sur les jeunes. Et ceci se passe alors qu'évidemment l'affaire Dreyfus éclate bien après l'école républicaine de Ferry. Mais il y a un danger. Et donc il faut que nous luttions contre le clergé parce qu'il a un risque d'emprise sur les jeunes. Vous savez, quand on a donné le nom de hussards de la République aux instituteurs formés par les écoles normales, le terme de hussard renvoyait évidemment à l'uniforme. Les hussards étaient en noir et donc bah, les maîtres ils enseignaient aussi dans une forme qui était celle d'ailleurs des avocats du tiers-état en noir, mais ce n'était pas la soutane évidemment, mais ça signalait bien que les hussards c'est la cavalerie légère, sont ceux qui attaquent dans les grandes guerres jusqu'au 19e, aujourd'hui c'est ce qu'on appelle les véhicules de l'avant blindé, et ce sont ceux qui sont au contact de l'ennemi les premiers, les instituteurs. Le terme ne signale pas autre chose. Ils sont là pour se battre en premier. Donc le combat, c'est dans la tête des jeunes Français qu'il faut le mener. Et puis il y a l'autre emprise que dénonçaient les républicains, c'était l'emprise sur les femmes du clergé. Et on comprend ainsi pourquoi ces républicains aussi intelligents, aussi merveilleux, avec autant de grands noms, aussi démocrates, aussi radicaux, aussi socialistes, se sont opposés avec une détermination, mais alors, et une obstination au vote des femmes. Parce qu'elles étaient sous l'emprise. On ne va pas revenir parce que ça ferait une autre discussion qui est intéressante. Il a fallu attendre 1944. Et même en 1944, ce n'était pas gagné à Alger. Et il a fallu qu'au sein du Conseil national, De Gaulle mette tout son poids dans la balance, tout son poids, pour faire plier les réticents. Et que sorte l'ordonnance d'avril 1944 qui instituait le vote enfin des Françaises qui ont voté pour la première fois au municipal en 1945. Donc tout ceci, il faut le comprendre dans ce contexte-là, c'était la méfiance vis-à-vis des curés qui, ou dans les confessionnaux, ou dans les écoles, avaient pris l'emprise sur l'essentiel. Les hommes y avaient échappé par le cabaret, par exemple, par je ne sais pas quoi, c'est ça. Alors. Dans ce contexte-là, évidemment, la loi du 9 décembre 1905, François Mitterrand, à l'issue des assassinats... François Hollande, à l'issue des assassinats du mois de janvier, a décrété que le 9 décembre prochain serait la journée de la laïcité. Donc, on appellera sûrement à des débats citoyens, nécessairement, partout. Très bien, je prends un ton ironique, tout ce qui rappelle l'essentiel est bon, à condition de savoir ce que ça... Et donc, on aura une journée de la laïcité le 9 décembre prochain, parce que ça réfère évidemment à l'adoption de la loi de 1905, qui est une loi de séparation de l'Église et de l'État. Alors, je ne vais pas faire un cours à vous qui en savez autant que moi, et sûrement plus. La République, l'État, quand on regarde l'article 1, la loi du 9 décembre 1905 a été modifiée à 28 reprises. On n'est pas dans un monument intangible de 1905. Par contre, ce qui n'a pas été modifié, c'est l'article 1 et 2. Tous les autres s'adaptent. Donc même ce qui nous y tient à cœur essentiellement, on peut le formuler pour qu'il soit efficace. Pas pour qu'il soit moindre, mais pour qu'il soit plus efficace et qu'il soit contextualisé. On ne peut pas parler, peut-être, j'en sais rien, hein, peut-être pas parler de la laïcité en 2015 comme on en parlait en 1905. N'empêche que les deux premiers articles sont intangibles, en tout cas jusqu'à maintenant. L'article 1, la République assure la liberté de conscience, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Interprétation donc possible également. La République ne reconnaît nos salariés, etc. etc. Hein, on ne va pas revenir sur... Alors, à la fois la République garantit les cultes parce qu'elle reconnaît la liberté de conscience, et en même temps, elle ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. C'est une opposition d'équilibre. Et le texte a été adopté par des longs débats. C'est Aristide Briand qui a porté la dernière mouture, après des apports de Jaurès, après les apports de Clémenceau, tout ça, enfin, plein de gens bien. Mais il y a bien quelque chose qui fait que, en tout cas, on peut en déduire, et je ne m'avance pas, mais ça peut être contestable, que la République reconnaît et admet le fait religieux. Par contre, elle édicte le principe de séparation. Et donc, il y a là du dur. Hein. C'est du costaud. Et c'est ça qu'il faut garantir. Il n'y a pas de laïcité qui ne soit adossée à l'idée d'égalité. Égalité de respect et de considération devant les opinions et égalité devant la loi. Donc, il n'y a aucun... structure spirituelle, on va dire, ou fait religieux, qui ne puisse pas être déféré devant la loi. À condition, évidemment, que cette institution de la République ait conscience du rôle qu'elle doit jouer. Et alors là, on peut, évidemment, discuter sur le rôle du Conseil d'État, sur plein de choses pratiques. Bon. Je vais vous montrer une dernière image tout à l'heure si on a le temps. Je finis pour comme ça bouclera. Alors, au fond, tout ceci, c'est une façon d'être ensemble. C'est ça. Cette idée de séparation de l'Église et de l'État, elle n'est pas inventée en 1905. L'Édit de Nantes avait inventé la cohabitation de deux religions, l'une majoritaire, l'autre minoritaire, et il y avait eu un texte qui a été adopté, une loi, qui a été adoptée en, je l'ai pris parce que je ne m'en souvenais pas, février 1795, mais qui a disparu après avec le concordat. Je vous dis juste les deux premiers articles, trois premiers articles qui sont très courts. Conformément à l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et à l'article 122 de la Constitution, l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé. 1795. Article 2. La République n'en salarie aucun. On n'était plus dans la Constitution civile, hein, j'ai sauté les épisodes en 1995. Article 3. Elle ne fournit aucun local, ni pour l'exercice des cultes, ni pour le logement des ministres du culte. Purée ! Si on devait appliquer ça aujourd'hui, voyez un peu la révolution. Bon, non, c'est dire, vous voyez, on a intérêt à penser qu'on est des héritiers. Et Briand, Jaurès, etc., quand ils ont voté, et puis Combes, et puis tout le monde, enfin, tous ceux qui étaient les plus radicaux, des anticléricaux, ils étaient parfaitement conscients de ce texte, par contre, hein. Parce qu'ils connaissaient la Révolution française sur le bout du doigt. Hein. Alors, au fond, je finis là-dessus, tout ça, ça nous sert à quoi ? À être ensemble. C'est ça qu'on cherche. On le cherche par des biais différents, par ces détours différents, de sacrés différents. Les croyants, quelle que soit leur religion, ils ont un au-delà. Voilà un point de référence qui leur est propre, et qui a sa propre structure. Les non-croyants, bah, ils ont un ici-bas qui est souvent extrêmement exigeant et généreux. et qui se détermine dans des fonctionnements avec des spiritualités particulières, d'associations, de franc-maçonnerie, que sais-je encore, enfin, plein de choses tout à fait respectables et d'égale qualité, après les antériorités. Le problème pour la République, c'est que tout ça doit être considéré, à la fois ceux qui croient au ciel et celui qui n'y croyait pas. Et donc, pour tous, la République doit créer un au-dessus. Et cet au-dessus, il appartient à tout le monde. Il appartient évidemment pendant le temps terrestre. On ne va pas emporter la République au paradis s'il existe, ou dans l'inanité des silences stellaires s'il n'y a rien au-delà de la mort. Mais c'est bien ça dont il est question. Donc il y a bien quelque chose qui doit être une forme de coexistence des sacrés, parce qu'il y en a de plusieurs formes, qui sont organisées dans une même société. Et il faut qu'on vive avec les convictions des autres. Et ça, c'est dur. La laïcité et la fraternité, ce sont des... Fraternité d'abord, la laïcité, pour définir les notions dans leur ordre chronologique, ce sont des rapports à l'autre. Mais la liberté l'était également, tout ce qui ne nuit pas aux autres. Et on retrouve l'ordre public. Ma liberté... Et donc, il y a quelque chose qui est d'ordre tout à fait particulier. Je vous rappelle que la laïcité... elle est inscrite dans la Constitution en 1958. Alors j'ai une autre image à vous montrer, autrement je fais ma conclusion et puis on reviendra pour pas... Ah, il est 8h20, je me dépêche, je ne vous montre pas l'image. C'était pour montrer comment il y avait une sorte de rassemblement dans un même cône. Vous voulez que je la montre ? Alors, je reprends le point de sacralité, le point d'ancrage, on s'en fiche. Je le mets vertical, c'est pas une transcendance, mais c'est ça qui fait image dans la continuité historique. On y met nos valeurs, nos principes, tout ça, à mon avis, c'est équivalent, on peut le discuter, parce qu'il y a peut-être des distinctions que les juristes introduiraient entre valeurs et principes. Et puis, j'ai remis après liberté, égalité, fraternité, laïcité, parce que c'est une composante essentielle. Solidarité, c'est une sorte de valeur qui s'est dégagée à la fois de la fraternité dans le contexte des évolutions sociales dont on parlait tout à l'heure, et notamment de 1946, du travail de la résistance et puis de tout ce qui était porté par la rénovation. Alors, nous, on est là, on est en bleu. Et puis, on est censé croire à tout ça, en tout cas, croire au sens de converger, acquiescer, convenir, voilà, de convenir. On est dans, la République est une convergence. Tout point de sacralité est une convergence. Et puis, à l'intérieur, alors, je les ai fait plus ou moins grands, mais après, chacun met la taille qu'il veut, j'ai mis des groupes qui croient, là, qui ont des points de référence Y, je ne vais pas les nommer, parce qu'on est mal barré, quoi. Et il y en a qui sont tout petits, parce que je sais pas, moi c'est peut-être le club sportif des boulistes ou je sais pas quoi de l'Aveyron. Mais ils ont un point commun qui les rassemble. Je veux pas tout minorer, mais quand on constitue un groupe, vous le savez, vous êtes souvent dans un monde associatif, on est d'appareil dans un système de croyances collectives. Parce qu'on s'entraide, on se respecte, on partage des choses, des rires, des moments. Tout ça, c'est ça le point de sacralité, ce mini-point. Alors après, ils sont plus ou moins importants. Bon, on peut imaginer des religions, des partis politiques. Quand on est à l'UMP, ou aux Républicains, ou au Parti Socialiste, ou au Parti Radical de Gauche, au Parti de Gauche, ou je ne sais pas où, on n'est pas, en théorie, dans des convergences identiques. C'est ça le projet politique. Et on veut dire, par exemple, aux Français, nous, machin chose qui militons là-dedans, nous voulons que notre point vienne renforcer ceci. Pas s'y substituer, mais le renforcer, lui donner du sens, c'est le projet politique. Bon. Et puis il y en a, vous voyez, là j'ai fait exprès, il y en a qui appartiennent à deux. Il y en a qui sont dans des, par exemple, dans des partis politiques, mais également qui sont dans une religion. Donc ils ont chacun cet intime sacré qui fait qu'il y a des croyants, des incroyants, et qui peuvent, et là je ne l'ai pas représenté parce que ça nous entraîne dans les choses, et il y a également certains qui réfèrent des points de sacralité extérieurs à la République. Et là ça pose problème. Non pas qu'on ne puisse pas le faire, mais ce qu'on doit faire passer avant, c'est ça. Et en tout cas, on ne peut pas affirmer que ceci, cela, cela ou cela soit plus important que ceci. Autrement, c'est le trouble à l'ordre public, là. Il ne faut pas que ça rentre en conflit non plus. Donc il faut que ce soit compatible. C'est ça que la République a institué. On garantit tout, on respecte tout, mais on rentre dans quelque chose qui est réglementé. Qui est oublié à une norme, qui est une norme philosophique, historique et d'acquis. Bon. Alors, je conclue, 2 minutes. Évidemment, la République n'a pas de base ethnique. Elle a une base civique. Alors, l'accession à la citoyenneté, elle ne dépend pas de la généalogie ou de la génétique. Et si nous voulons que la République soit vivante, il faut que le cercle qu'elle définit, les 62 ou 63 millions de Français, soit un cercle poreux. C'est-à-dire qui attire, qui permet de rentrer, et qui permet de sortir si on n'en veut pas. Qui permet de sortir également, il faut le penser. La République s'est toujours définie par une adhésion. Pourquoi ? Parce qu'elle se définit sur des points de sacralité. On est catholique parce qu'on croit en ce qu'enseignait l'Église catholique. On est républicain, et donc français, puisque nous on a identifié les deux depuis le 19e, parce qu'on adhère aux valeurs de la République. Si vous adhérez aux valeurs de la République, que vous veniez de Pétahouchenok, que vous ne parliez pas le français, il faudra le modifier quand même. Mais c'est secondaire par rapport à l'adhésion. Par contre, cette adhésion, le « nous » qui le reçoit, on parlait tout à l'heure, il en est en même temps le témoin et le témoin exigeant. Nous sommes ce que nous sommes. Nous pouvons tout transformer d'un commun accord, mais il faut que ça convienne, c'est-à-dire que tout le monde convienne. Mais on peut le transformer, on est bien d'accord, c'est pas intangible. Y compris ceci, on donne bien des définitions à la liberté qui ne sont pas du tout celles du 18e, évidemment, ou même du 19e. Moi, je crois que dans tout ça, c'est pas pour vanter la chose, mais la conscience historique est essentielle. C'est-à-dire qu'on a là, à partir du moment où on comprend qu'on est des héritiers, que nous venons de loin, de très loin, et qu'on a acquis tout ceci très progressivement, et durement, et très durement. Et que la chose ne se réduit pas à une histoire de 50 ans ou de 200 ans comme les Américains. C'est plus compliqué que ça. La laïcité, moi si je devais retenir les deux éléments qui, au cœur du cœur, le cœur nucléaire, si vous voulez, des valeurs, pour moi, c'est une opinion. Moi je mettrais deux choses. Je mettrais la laïcité en tant que l'habit collectif qui garantit la liberté de conscience dans laquelle on n'est rien, dans laquelle on ne peut rien exprimer. Et je dirais l'unicité de la loi. La loi est la même pour tous. Elle est la même pour les hommes et pour les femmes, pour les riches et pour les pauvres. Et quand on dit ça, on a l'air de dire ben oui. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Et donc ça, c'est un enjeu toujours réaffirmé. Et il est toujours réaffirmé depuis 1789. Donc c'est toujours d'actualité. Et c'est ça, moi, à mon avis, le cœur du bien commun. C'est ça qui constitue, pour moi, notre sacré. On peut estimer qu'il y a d'autres éléments, la fraternité. Et donc, quand on affirme et qu'on veut le défendre, on affirme des convictions. Convaincre, c'est vaincre ensemble. C'est pas éliminer des gens. Mais s'il faut éliminer, il faut éliminer. Je ne suis pas très correct. Mais quand on regarde la Marseillaise ou le chant du départ, ou quand on pense à la résistance, on voit bien que à partir du moment où on est conscient que ces idéaux, on y adhère, eh bien, il faut le dire. Et il faut le défendre. Autrement, eh bien, ça va disparaître. Voilà. C'est pas le... Moi, je pense qu'en plus, c'est la condition de l'attractivité de ce que nous sommes. Plus on défend, plus on affirme. Après, on peut se tromper. Et comme on est dans un espace public laïque, on débat. On n'est pas obligé d'être d'accord. Personne n'est obligé d'être d'accord. Mais on débat dans le respect, après avec des garanties que la loi et puis le recours de la loi permet. Si on défend ça, on va donner de l'attractivité et on va donner de la vitalité à la République. Et on ne va pas faire disparaître la crise qui traverse, parce qu'on est dans un monde qui se globalise, mais à l'intérieur du monde globalisé, dans lequel il y a plein de choses sur lesquelles on peut revenir, hein, c'est pas non plus de l'intangible, la spécificité française, cette sacralité laïque, on montrera qu'elle est d'une actualité constante, même si on peut l'adapter à notre temps, et si on doit l'adapter. Voilà, c'est pour ça que je disais que c'était notre maison commune, c'est le lieu du nous, où on est bien. Pour ceux que nous formons, ceux qui vont nous rejoindre, ceux qui vont naître et ceux qui viennent nous rejoindre, parce qu'ils espèrent ça. Parce que dans ceux qui choisissent la France comme terre d'immigration, ils n'y viennent pas pour des raisons quelconques. Il y a ceux qui la traversent pour aller au Royaume-Uni, espérant par là aller aux États-Unis par ailleurs. C'est d'autres rêves qui sont portés par toute la communication mondialisée depuis longtemps. Mais ceux qui viennent en France pour être des Français, ils y viennent parce qu'il y a une spécificité française. Et même s'ils ne connaissent pas la langue, mais ils sont désireux de la comprendre et de partager notre culture commune. Et ça, c'est un élément de la culture commune. Et je prêche des convaincus, évidemment, donc c'est assez facile. Je vous remercie.
C'était Jean-Louis Mataran, historien, sur le thème « La République et le sacré ». Cette deuxième partie de la conférence qu'il avait donnée en novembre 2015 à Villefranche-de-Rouergue, à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, s'intitule « La République avant tout ». Et maintenant, suite et fin de cette émission, avec une pause musicale et le billet d'humeur de Dominique Ladet.
Bonjour à tous. En cette fin de printemps, l'ambiance est électrique. Manque de soleil ? Évidemment oui. Trop d'eau ? Aussi. Même si ces derniers jours le mieux s'installe, nous sommes tous en manque de lumière. Et de lumière avec une S, comme on dit chez moi. Hein. Parce que pour moi, il ne s'agit pas que de soleil. Mais il s'agit aussi de ces idées forces, ces guides, cette vision du futur, ces projets dynamiques vers des possibles, vers un avenir. Tout cela me manque, nous manque. Dans cet univers, ce qui est médiatisé surtout, c'est les combats de coq. La violence comme seule vérité qui s'impose partout et en tout. S'il est vrai que le climat nous fait souffrir, il n'est pas le seul. Ayant d'ailleurs une pensée particulière pour tous ceux qui ont été victimes des dernières inondations ou des derniers orages, tous les deux violents et meurtriers. Mais outre le climat pourri que la météo nous présente tous les jours, ou nous présentait, il y a le climat délétère, empreint de violences multiples et variées, là aussi omniprésent dans nos médias et dans nos vies. Violence répétée des terroristes, loups solitaires ou en meute, mais assoiffés de sang et de notoriété, qui utilisent la violence pour montrer qu'ils ont la vérité. Que vaut une vérité qui a besoin de la force pour s'imposer ou survivre ? Je n'existe que parce que je tue, que par la mort des autres. Et si je n'arrive pas à tuer, je me tue. Beau projet d'avenir. L'avenir, c'est la mort. Violence autour de la loi travail. Que ce soit les violences faites par le gouvernement, qui n'a pas opté pour de longues négociations préalables et tout au long du long chemin législatif, mais violence aussi des prises d'otages par une minorité d'actifs ou retraités au nom de l'intérêt de tous, blocage de routes, de dépôts de carburant ou de raffinerie, pour mettre à genoux le gouvernement. C'est le seul but. Combat de coq, où on ne cherche qu'à imposer à l'autre, du côté des gouvernants comme des syndicalistes concernés, par la force, là aussi, ce qui devrait faire consensus et donc ce qui relève de la négociation, de la rencontre de volonté d'avancer. Et non de personnalités en mal de reconnaissance qui font de cette loi un combat. On n'est pas si loin du combat des chefs, où le plus fort a forcément raison. Violence encore des dits casseurs, en marge ou pendant les manifestations, provoquant le désordre, ce que certains appellent l'anarchie. L'anarchie, pour moi, ne peut pas être ça. Et d'abord parce qu'elle s'adresse à des gens responsables, et qu'elle cherche à bâtir et non à détruire. En même temps, je suis bien obligé de me poser la question, à qui profite le crime ? La manipulation des foules est dangereuse et met en danger la démocratie. Qu'un gouvernement issu de la gauche ose même penser, évoquer l'interdiction de manifester, sans parler des irresponsables de droite qui, après avoir crié que d'interdire cette manifestation a été une erreur, s'empressent de hurler à l'inconstance du gouvernement devant ce qu'ils nomment son recul. Et c'est bien un recul dans l'état d'esprit des politiciens d'aujourd'hui. Pourquoi ne peut-on pas entendre que négocier peut amener à un accord ? Serait-on tombé dans un régime autoritaire ? Pas de mauvaise pensée, Dominique, pas de mauvaise pensée. Violence dans et autour des stades de football de l'Euro. Normalement, c'est la fête du sport. La fête du foot, la fraternisation entre supporters de pays qui se rencontrent sur un terrain et font la fête ensemble. La fête de leur sport passion. Et tout cela existe vraiment, heureusement. Mais comment ne pas constater que la fête est gâchée par une bande d'abrutis qui montrent qu'ils ont le QI d'une huître ? Quelle misère ! Quel dégoût ! Violence quotidienne, subie par tous les exclus d'un système à l'agonie et qui n'en finit pas de mourir. J'ai le sentiment que toutes les minorités sont concernées, ici et ailleurs. Le plus nombreux sera le plus fort s'il détruit l'autre. L'autre étant d'ailleurs vécu comme dangereux, dangereux puisque différent. Alors que notre richesse est justement le cumul de nos différences. J'irais même jusqu'à dire « ça, j'en suis sûr ». Violence conjugale, évidemment, fait le plus souvent aux femmes et en immense majorité par celui-là même qui lui a dit un jour qu'il l'aimait. Violence faite aux enfants, là aussi, sexuelle ou non, par ceux qui sont censés les protéger. La violence est l'arme des faibles, disait Publius Sirius, qui est né en 85 avant Jésus-Christ, en Syrie. Il était esclave à Rome, qui est devenu un poète connu et apprécié à son époque. Oui, je crois que cela est profondément vrai. Être obligé de s'imposer par la violence montre bien l'échec de la relation avec l'autre, avec l'intelligence de l'autre. C'est une réaction première, primaire. On veut aller plus vite,
et en réentendent tous des nuls, ne comprennent rien, et puis encore, ils ne reconnaissent que la force. Surtout si c'est nous qui la saignons. Si on ne veut pas qu'un homme raisonne, devienne donc raisonnable, il ne faut pas lui laisser la possibilité de se former, de former son esprit critique. La violence nourrit la haine de l'autre, que l'on soit vainqueur ou vaincu. Et le chômage ? Cette violence sournoise, faite à plusieurs millions de personnes en France. Sournoise parce qu'elle ne dit pas obligatoirement son nom. Elle se cache souvent derrière des discours, soit très policés, « C'est pour sauver l'entreprise que je dois vous licencier. Je n'ai rien contre vous. Je dois le faire, sinon c'est moi qui saute. » Ou des paroles de gens blasés. Enfin, des gens qui se disent blasés, mais qui au fond d'eux-mêmes se décomposent et petit à petit perdent pied. Et se réfugient dans tous les bras ouverts, prêts à les nourrir de fausses vérités, et surtout de désigner les ennemis à abattre, car c'est eux, la cause de leur état de chômeur ou de chercheur d'avenir. Ces bras s'ouvrent pour mieux étreindre et étouffer, pour mieux contraindre et embrigader. Jamais pour aider et ouvrir un espoir de lendemain qui chante. Même ce fléau est le résultat de violence par refus de partager. Partager l'intelligence, le savoir-faire et le savoir-être de tous et de chacun. Partager la force de travail et de création, de réalisation de tous et de chacun. Toutes ces violences, si elles se poursuivent, nous entraînent vers une mort certaine et prévisible. Alors debout. Et pas que la nuit. Debout et réagissons. C'est-à-dire agissons de nouveau. Mais l'esprit ouvert, prêt au partage de visions différentes, toutes empreintes certainement d'une part de vérité, toutes amenant un éclairage venant de positions forcément différentes, devant un événement, une difficulté, un problème rencontré. C'est la rencontre qui fait la force de l'humanité, l'occasion de l'entrée en contact, de la jonction de pensées diverses. Nos difficultés sont nos forces, si et seulement si nous nous en servons pour avancer. Nos différences nous enrichissent donc. Et pour citer Antoine de Saint-Exupéry dans Citadelle, « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ».
Merci Dominique, on se retrouve à la rentrée, après une pause estivale. Je vous annonce également que la Ligue des droits de l'homme envisage de poursuivre la réflexion sur la République avec Jean-Louis Mataran, courant octobre. Ce sera plutôt sur le thème « La République et ses ennemis » ou « Les ennemis de la République ». C'était Urgence, urgence pour les droits, urgence pour les libertés, l'émission mensuelle que vous propose la Ligue des droits de l'homme. Cette émission, vous pourrez la réécouter sur le site cfmradio.fr. Excellentes vacances à tous. Rendez-vous à la rentrée. Avec la Ligue des droits de l'homme, défendons au quotidien les droits, la solidarité et surtout refusons le racisme et l'exclusion.
Il y a des hauts, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos. Des coups de bluff et des rodéos. Il y a des rodéos.
Il y a des rodéos.
Et la France d'en bas. Et la France d'en haut. Celle dit des bourgeois. Celle dit des prolos. Il y a les petits fils à papa. Y'a la France moyenne, de Brest à Cayenne. Y'a les sans-papiers, les sans-sous, les sans-sus, les sans-pitié. Y'a les femmes seules et les prisonniers. Y'a les infirmières et les gars du chantier. Y'a les ouf, les ouaves, les toqués-toqués. Malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Et voici que me voilà. Oui, me voici, c'est moi que v'là. Je peux chanter, parler, tout ça. Quand tout ça se passe ici-bas, où